même sans rien dire. C'est notre pari, celui de la vie, celle qu'on a choisie.
La décrète la pause syndicale.
Merci.
On ne peut exister que grâce à vous. On ne reçoit pas d'argent de l'État bourgeois, qu'il soit de gauche ou de droite, jusqu'à nouvel an.
C'est bien ce que je disais, merci.
Voilà.
C'était plus court, quoi.
D'autre part, s'il y a des gens qui sont professionnels du spectacle, nous rappelons que demain, il y a une assemblée générale, donc c'est ce qu'on appelle les intermittents. Alors que notre métier, c'est pas d'être intermittent, nous sommes professionnels du spectacle, il se fait que nous travaillons par intermittence.
Non, nous sommes payés par intermittence.
Oui.
Nuance.
Voilà.
Et si vous avez envie de nous revoir, on a un cahier sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées.
Oui.
Voilà. Et la cage, elle est là.
Pour les spectateurs, la rue ça fait peur, il n'y a pas de projecteur. C'est que la lumière n'est pas prisonnière, on est en plein air. Quand on va finir, ils vont repartir, peut-être applaudir. Vous êtes attendris, on vous a séduit, c'est toujours ça de prix.
Alors, entre nous, franchement, tant que dans le monde, 20% de la population continuera à posséder 86% des richesses, franchement, moi, je ne vois strictement aucune raison de lâcher ce drapeau rouge.
Quand il faut lutter, on aime à chanter pour se réchauffer. La rue, c'est pratique, c'est très politique, faut faire gaffe aux flics. Manifestation ou insurrection, encore des chansons. Quand on se rassemble, les oppresseurs tremblent parce qu'on est ensemble.
Croyant que mes vers vont encombrer tout l'univers de désastres et d'incendies. Elles sont si rares pourtant, mes chansons au soleil couchant et mes lointaines mélodies. Mais si je dérange parfois la sérénité des cieux droits, si des sons d'acier ou de cuivre ou d'or vibrent dans mes chansons, pardonne-moi, c'est ma façon, je suis vraiment pressé de vivre. Et puis tu m'aimeras toujours, éternel sont les amours dont ma mémoire est le repère. Nos enfants seront de fiers gars qui répareront les dégâts que dans ta vie a fait leur père. Ils dorment sans rêver à rien dans le nuage aérien des cheveux sur leur fine tête. Et toi près d'eux tu dors aussi, ayant oublié le souci de tout travail, de toute dette. Moi je veille et je fais ces vers qui laisseront tout l'univers sans désastre et sans incendie. Et demain au soleil montant, tu souriras en écoutant cette tranquille mélodie.
Bienvenue, bienvenue dans les Amis d'Orwell.
It was the police patrol.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's
windows. Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Ce soir, on vous propose une discussion organisée par la branche française d'Amnesty International. Cela s'est passé fin octobre à Paris, au CICP, le Centre des Cultures Populaires de la rue Voltaire. Alors, Amnesty International a lancé, il y a quelques semaines, une grande campagne mondiale pour mettre au banc des accusés ce que l'on appelle pudiquement les armes non létales ou les armes à létalité réduite. Leur campagne s'appelle Manifestez-vous et tous les détails sont sur leur site amnesty.org. Alors quand on parle des armes non létales, bien sûr, c'est un euphémisme pour parler des engins de guerre employés contre les populations civiles, par exemple quand ils exercent leur droit de manifester. Alors pour l'occasion, Amnesty avait invité deux militants politiques venant de Colombie qui ont subi la répression en 2021 pendant un énorme mouvement social qui a lieu là-bas, qui a causé l'éborgnement de plus de 100 personnes, et cela en moins de 3 mois. Alors il faut savoir qu'en Colombie, les balles en caoutchouc ne sont pas des balles de LBD, que l'on connaît ici en France. Les plastic bullets utilisées par la police en Colombie sont de plus petit calibre, c'est-à-dire 1 ou 2 cm contre 4 cm pour les balles de LBD, et donc ces petites balles peuvent causer la mort lorsque ces projectiles atteignent la tête. Nous entendrons justement Lady et Sébastien parler de leur histoire. C'est Lady qui a été éborgnée, et ça s'est tellement mal passé là-bas avec les forces de police qu'ils sont maintenant réfugiés politiques en Norvège. Il y aura aussi dans cet enregistrement l'intervention de Pierre Douillard-Lefebvre, que l'on connaît bien, qui a été lui aussi mutilé en France, mutilé à l'œil en 2007. Alors lui, il a été un des fondateurs de l'Assemblée des Blessés et il a écrit deux ouvrages sur la question. Alors je laisse une représentante de Amnesty France présenter les invités de la soirée avant d'introduire cette discussion qui a eu lieu fin octobre au CICP à Paris.
Lady, tu es donc militante colombienne. Tu as été blessée lors d'une manifestation pacifique à laquelle tu participais dans le cadre de la grève nationale de 2021, donc à Bogota. Sébastien, tu es étudiant en biologie. Tu étais aussi là lors de la manifestation à laquelle participait Lady et défenseur des droits humains. Pierre Douillard-Lefebvre, toi, auteur notamment de l'ouvrage « Nous sommes en guerre, terreur d'État et militarisation de la police ». Tu as également été blessé par la police en manifestation lors d'une manifestation lycéenne à Nantes en 2007. Et Domiti, ma chère collègue, qui est chargée de plaidoyer sur le droit de manifester et les violences policières, et donc notre experte à Amnesty International France sur ces sujets. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Et en introduction, je voudrais vous donner la parole à tous les deux, Lady et Pierre, et Sébastien aussi du coup, pour que vous puissiez nous expliquer, nous raconter un peu votre parcours et nous expliquer aussi comment vous en êtes arrivé à vous investir dans la lutte contre les violences policières pour vous deux, Lady et Sébastien, en Colombie, et pour toi, Pierre, en France. Et du coup, peut-être commencer avec toi, Lady Silice.
Hola, espero que me escuchen bien. Mi nombre es Lady, tengo 24 años.
So, era estudiante de ciencias políticas cuando pasó ya ahora.
Oui, bonsoir, je m'appelle Lady, j'ai 24 ans. Lorsque j'ai été blessée, j'étais étudiante de sciences politiques. Maintenant, je me suis déjà, enfin, je suis licenciée, j'ai déjà mon diplôme, défenseur de droits humains.
En el 2021, en el marco de las grandes manifestaciones en Colombia.
En 2021, dans les cadres de grandes manifestations en Colombie, j'ai été blessée à l'œil droit. C'était un policier qui m'a blessée.
El primer impacto es en mi ojo derecho y luego.
Donc un premier impact a blessé mon œil droit et encore deux impacts ont blessé mes jambes, ma jambe gauche. Nous avons participé dans cette manifestation contre la réforme fiscale qui nous imposait le gouvernement de l'époque.
También la reforma de la educación, el gobierno no quería.
En effet, nous avons également manifesté contre la réforme de l'éducation où ils coupaient les budgets. Donc notre gouvernement. Voulait plus dépenser dans l'éducation, mais il voulait dépenser davantage dans les avions de chasse pour faire la guerre.
Pusimos la denuncia. Tengo tres procesos abiertos en Colombia.
Nous avons déposé plainte et j'ai trois procès ouverts en Colombie.
Y debido a mi lucha social y también pues nosotros.
Du fait de ma lutte sociale, mon combat social, et avec d'autres victimes qui ont été donc victimes des lésions oculaires, nous avons réussi à faire une action collective.
Et tout esto pues fue un problema porque.
Ceci a occasionné toute une série de problèmes. Les policiers ont pris des représailles contre moi-même. Ils m'ont menacé de mort, ils ont fait des attentats dans ma maison, par exemple.
Pero logramos reunir a más de 80 personas para víctimas de trauma ocular.
Mais malgré tout, nous avons réussi à rassembler à peu près 80 personnes victimes des lésions oculaires et nous avons déposé plainte collective. Et nous avons en quelque sorte inauguré une nouvelle voie judiciaire auprès de notre gouvernement. Parce qu'il n'y avait pas un chemin, normal pour déposer plainte, nous, en tant que victimes de lésions oculaires.
Y abrimos rutas para que fueran atendidos jurídicamente y psicosocial.
Donc, nous avons ouvert de nouvelles voies pour avoir une attention juridique et aussi psychologique.
Pues durante todo ese proceso, la policía siempre
Et tout au long de ce processus, la police a fait irruption à plusieurs reprises. Il a interrompu ce processus et on a été menacés d'une façon très agressive. On m'a également culpabilisée parce que j'étais femme. J'avais rien à faire dans une manifestation. Donc il y avait là une dimension de genre très, très accentuée. Et donc, cela a conduit à toute une autre série de menaces. Et après l'attentat chez moi, dans ma maison, nous avons pris la décision de sortir du pays et nous sommes maintenant accueillis par la Norvège. Merci de cette invitation.
Et bueno, como ya saben, mi nombre es Sebastián. Gracias por estar acá.
Comme vous le savez bien, je m'appelle Sébastien et merci de cette invitation.
Et bueno, después de lo que le sucedió a Lady.
Après ce qui s'est passé avec Lady, ce qui lui est arrivé le 28 avril 2021, eh bien, il y a eu des conséquences personnelles pour moi également. L'événement malheureux est arrivé tout près de mon université à moi. Donc, nous avons demandé de l'aide. Lorsque cette attaque s'est produite, cette lésion oculaire s'est produite, nous avions demandé de l'aide à quelques policiers. Et ces policiers-là, en fait, m'ont reconnu parce que donc, l'université est à côté, ce qui a engendré des conséquences assez. Extraordinaire.
Et muchas veces me detuvieron, me llevaron a la estación de policía.
Eh bien, ces conséquences extraordinaires étaient le fait qu'on m'a arrêté constamment, on m'a amené au commissariat, on m'a dénudé, j'ai été frappée, non seulement moi, mais également mes amis qui n'avaient en fait rien à voir dans cette histoire. Ils nous volaient des affaires qui appartenaient à l'université, par exemple. Et si bien qu'au bout d'un certain moment, j'ai décidé de quitter l'université.
Et bueno, también resaltar que durante mi declaración ante los policías, Et la déclaration que dieron mis amigos ante los
lorsque policiers. Nous avons été entendus par la police, ils ont pris notre déposition, moi-même et mes amis, eh bien, nous avons dévoilé ce qui s'était passé, bien entendu. Et il y avait toujours une personne qui était à côté, qui mettait en question nos propos. Par la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la même personne qui avait tiré sur le visage de Lady, ce qui a engendré des conséquences également extraordinaires, c'est-à-dire que cette personne-là, les policiers connaissaient les identités, nos adresses et toute une série de détails personnels.
Et, bueno, pues, mi papá es policía y... Eso genera también un conflicto, ya que siempre que me
pedí... Mon père est policier. Donc ceci a engendré encore un autre conflit. Lorsque les policiers m'arrêtaient dans la rue et me demandaient mes papiers, je ne sais pas comment, mais ils savaient que mon père était policier. Donc c'était encore pire parce qu'ils commençaient à me dire que j'allais être éduquée à la façon dont un fils de policier doit se comporter, que je ne devais pas traîner avec des personnes comme Lady. Et donc, une fois que tout un cumul de choses se sont produites, je suis partie chez Lady pour également prendre soin d'elle. Et au bout d'un moment, après l'attentat, nous avons pris la décision de partir vers la Norvège avec la maman de Lady, Lady et moi-même.
Merci beaucoup pour l'invitation, merci à vous deux d'être là et de pouvoir échanger sur nos expériences respectives et peut-être réfléchir à des possibilités de résistance internationale aussi, pourquoi pas. Moi, j'ai été touché par un tir de lanceur de balles de défense de LBD, donc une arme qui tire une balle en caoutchouc, dont les munitions sont ici, hein, que j'ai amené si vous voulez les regarder. Ce lanceur de balles de défense, il est expérimenté en 2007, à partir de 2007, pour remplacer le flashball qui était en dotation dans la police française. C'est Nicolas Sarkozy qui le fait expérimenter. Et à l'octobre 2007, il y a un double événement qui se produit en France. D'une part, il y a des révoltes à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, après la mort de deux jeunes qui ont été percutés par une voiture de police. Donc il y a un soulèvement, il y a une révolte, il y a une insurrection à Villiers-le-Bel. Et donc la police utilise cette arme-là, hein, c'est le tout début. Et simultanément, il y a un grand mouvement étudiant et lycéen. Ça va la vitesse ? Il y a un mouvement de jeunesse, un mouvement lycéen et étudiant qui se produit, auquel je participe. Et à cette époque-là, j'étais lycéen, j'avais 16 ans. Et c'est dans ce contexte-là que, à Nantes, du coup, dans ma ville de l'ouest de la France, un policier volontaire, cagoulé, expérimente cette arme et donc tire sur notre cortège qui était composé de lycéens de 16 ans, 14 ans, 15 ans, et je reçois ce tir à hauteur de tête, à côté de l'œil droit. Et donc, depuis, j'ai perdu l'usage de mon œil droit, il n'a pas explosé. Mais je suis aveugle de l'œil droit et il s'avère qu'à partir de cet événement, on va déclencher, enfin, avec ma famille d'abord, puis avec des proches, puis avec des camarades, je vais expliquer un peu, on va petit à petit enquêter, se défendre, faire une procédure judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé et se battre contre ces armes-là. Alors à l'époque, le LBD, personne ne connaissait cette arme-là. Aujourd'hui, malheureusement, tous les Français voient exactement de quoi il s'agit. C'est présent à chaque manifestation, dans les quartiers au quotidien, dans les quartiers, dans les banlieues. C'est présent sur les ZAD, etc., etc. À l'époque, c'était une nouveauté. Donc il a fallu d'abord comprendre de quoi il s'agissait, ce que voulait dire le lanceur de balles de défense de la politique répressive du gouvernement, et mener la bataille. Alors... la France n'est pas un narco-État mafieux comme la Colombie, mais quand j'entends votre récit, il y a d'énormes similitudes. D'abord, évidemment, déposer plainte est quasiment impossible quand on est blessé par la police. Hein, il faut passer directement par le procureur. Ils ne reçoivent pas les plaintes directement au commissariat. Il faut mener soi-même l'enquête, c'est-à-dire que nous, on a constitué un groupe de travail indépendant, constitué de proches de ma famille, puisqu'il ne faut absolument pas compter sur la police qui est censée enquêter sur ses propres agents. Ça, ça n'existe pas. Donc dans 99,9% des cas, les plaintes pour violences policières n'ont pas de suite. Et donc on s'est battu comme ça, méthodiquement, progressivement. Ça a pris des années. Alors là, je parle de 2007, ça fait déjà 15 ans. Je pense qu'on a bien changé d'époque depuis là, mais j'y reviendrai. Et donc on s'est battu, il y a eu un procès du policier puisqu'on a réussi à identifier le policier tireur. Je reviens pas sur tous les détails, mais effectivement il y avait des techniques d'intimidation, notamment pas des menaces de mort, mais notamment dans les manifestations, les unités de police qui tiraient quand ils me voyaient, ils mettaient la main sur l'œil en rigolant, par exemple, des choses comme ça. Et ça, c'est pas que moi, c'est quasiment toutes les personnes en France qui ont perdu un œil ont subi des humiliations comme ça. Également un grand nombre d'arrestations, voire de gardes à vue pour des activités militantes. Et donc il s'avère qu'on a réussi à obtenir un procès du policier qui a tiré, ce qui arrive très rarement. Sauf que le policier a été relaxé totalement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été condamné, parce qu'il avait obéi à un ordre. Sauf que on n'a jamais pu faire comparaître les donneurs d'ordre de ce policier, ça a été impossible dans la procédure. Donc pour finir sur cette affaire judiciaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un autre recours directement contre l'État français, directement. Donc c'est un recours administratif, ça ne punit pas grand monde en fait, c'est vraiment une peine symbolique, l'État est reconnu coupable du tir. Et donc en 2018, donc 11 ans après la blessure, il y a eu une condamnation de l'État français pour ce tir de LBD. Qui est très symbolique en fait, hein. C'est des calculs sur la douleur, sur le préjudice, etc., en pourcentage, enfin, voilà, c'est vraiment un truc très administratif et assez peu satisfaisant, mais c'était surtout pour se battre sur ce plan-là contre le lanceur de balles de défense. Il s'avère que cette condamnation de l'État, elle intervient en juillet 2018, c'est-à-dire 3 mois avant le début des Gilets jaunes, et donc au moment où la police a utilisé le plus de tirs de LBD de toute son histoire. Sauf qu'il ne faut pas se contenter de présenter la dimension judiciaire, qui est finalement assez secondaire. Il y a toute la dimension politique, il y a toute la dimension de solidarité collective. Et donc dans ce cadre-là, j'ai un peu fait partie des pionniers, entre guillemets, de ces blessures-là, mais en fait, depuis ma blessure, il y en a eu des dizaines et des dizaines d'autres. Et donc évidemment, on ne peut pas lâcher ce combat-là quand on voit qu'il y a d'autres blessés dans les quartiers, dans les manifestations, sur les ZAD, c'est impossible. Voilà, on est constamment renvoyé à ces blessures-là. Et donc, à partir de 2014, on a constitué, avec des camarades qui sont d'ailleurs présents dans la salle, l'Assemblée des blessés par la police. Et c'était une façon de ne pas individualiser la question, mais de faire front collectivement et de refuser d'être juste des victimes isolées dans notre coin. Et donc de se battre collectivement. Et donc l'acte de naissance un peu de cette assemblée des blessés, ça a été de manifester tous ensemble en tête d'un cortège avec que des personnes qui avaient été blessées, mutilées par ces armes-là et leurs familles. Donc ça, c'était une dimension importante. Cette assemblée des blessés, elle proposait aussi d'échanger des conseils, pas que judiciaires, mais aussi sur les questions médicales, puisque les médecins, mais j'imagine que c'est pareil en Colombie, prennent très mal en charge ces blessures-là. Ils ne sont pas formés, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc voilà, il a fallu échanger des expériences, des conseils médicaux, psychologiques, ou juste se tenir ensemble et pour certains, devenir amis et voilà, rester en contact. Donc ça, c'est une dimension très importante. Et il y a une autre dimension qu'on peut aborder, c'est la dimension internationale. Parce que depuis 2007, la question des mutilations et notamment des éborgnements causés par la police, elle est devenue très symbolique de la répression, et pas seulement en France, pas seulement en Colombie. On a vu ça également au Chili, on a vu ça également à Hong Kong. Et donc on a vu dans tous ces pays-là des cortèges entiers qui utilisaient par exemple le symbole de l'œil comme un symbole de revendication. On a vu des cortèges de personnes éborgnées au Chili également, à Hong Kong. Donc en France, on a essayé de le faire. Il n'y a pas que l'Assemblée des blessés, il y a d'autres collectifs qui existent. Les Mutilés pour l'exemple, qui sont des gilets jaunes qui ont été mutilés, etc. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions-là, voilà, pour vous présenter rapidement mon parcours.
Merci beaucoup à tous les trois du coup pour ces témoignages sur lesquels on voit effectivement beaucoup beaucoup de points communs. Donc on entend notamment sur l'usage de la force abusive par la police en manifestation et notamment des armes à létalité réduite, donc en France le lanceur de balles de défense. Du coup je me tourne vers toi Dominique peut-être pour savoir ce que Amnesty a documenté sur ce sujet-là du maintien de l'ordre en France, en Colombie mais aussi partout dans le monde.
Merci beaucoup. Sur la question des armes à létalité réduite, Amnesty, c'est en effet un pan de la campagne que tu avais rappelé, qui est la campagne phare depuis 2022, qu'on appelle en France Manifestez-vous, dans laquelle on défend plusieurs aspects. Un des pans, c'était le narratif positif, c'est de rappeler les valeurs, la beauté du droit de manifester, ce droit fondamental qui est un des corollaires de la liberté d'expression. Et les entraves, et c'est ça qu'on dénonce, et tu l'as également dit, Pierre, tu l'as dit, et je pense que vos témoignages ce soir, c'est dans ce sens-là que ça va, c'est-à-dire il y a une mondialisation, il y a un phénomène universel des violences policières, qui sont donc une partie des entraves qu'on dénonce avec le mouvement Amnesty. Il y a plusieurs documents, il y a plusieurs rapports. Il y en a un dans lequel tu figures, tu nous as donné ta voix, Lady, ton témoignage sur la Colombie, justement. On a documenté les victimes des liaisons oculaires en Colombie, il y en a plus d'une centaine. Il y a également un rapport sur les violences sexuelles et genrées. Donc c'est vraiment le cœur du métier d'Amnesty, c'est toujours de documenter grâce à vous, à votre confiance, et nos chercheurs qui vous rencontrent, qui collectent vos témoignages, etc. Et pour parler de la France, il y en a eu plusieurs, des rapports. Il y a eu notamment, alors c'est pas forcément que sur les armes, ce sera plutôt sur la criminalisation des manifestants, qui s'appelle « Que j'ai arrêté pour avoir manifesté ». Toutes nos ressources de toute façon sont sur notre site internet et là c'est plus les entraves notamment en matière des délits, des lois qui sont utilisées pour arrêter et prémunir les manifestants et leur faire peur. Et notre cœur de sujet en ce moment pour parler des armes à létalité réduite, c'est de pousser les États à l'adoption d'un traité international qui réglementerait la production, le transfert, le commerce des équipements destiné potentiellement à commettre de la torture. Et on a un soutien, quelqu'un qui fait écho en ce moment à nos demandes, qui est la rapporteure spéciale sur la torture, qui a fait un rapport qu'elle a fait en août et qu'on a vraiment pris connaissance, dont on a pris connaissance en septembre dernier, octobre, dans lequel elle va vraiment dans le sens de nos demandes, c'est-à-dire de faire la distinction entre deux types d'équipements, ceux qui vont créer intrinsèquement de la torture et dont on demande l'interdiction absolue de production et de commercialisation. Et puis il y a ceux dont on demande un minimum un contrôle, dans lequel on veut des garanties sur les licences de transfert, etc., pour éviter que des États, dans le commerce de ces biens, ne les utilisent pour commettre des violations de droits. Ça, c'est la dernière actualité. Il y a une des pétitions qui est à la sortie. On a plus de 100 000 signatures. On visait 100 000, on les a déjà dépassées. Et l'idée, c'est de remettre toutes ces signatures pour vraiment donner du poids à l'ONU en mars prochain, où on espère qu'une résolution sur cette thématique sera adoptée par les États. Donc merci d'ajouter votre signature ce soir si vous ne l'avez pas fait.
Ce soir, les amis d'Orwell vous proposent une discussion organisée par Amnesty France. C'était fin octobre. Le thème du débat, c'était les armes dites non létales qui font des dégâts partout dans le monde. Il y avait ce soir-là deux personnes venant de Colombie, dont l'une, qui s'appelle Lady, a été éborgnée pendant le mouvement social qui a ébranlé la Colombie il y a 2 ans. Ce soir-là, il y avait également Pierre Douillard-Lefebvre, l'une des premières victimes en France du fameux LBD. Pierre a écrit 2 ouvrages sur la question, dont le dernier, Nous sommes en guerre, a été déjà évoqué dans cette émission. Alors Pierre reprend la parole pour évoquer la militarisation croissante du maintien de l'ordre et notamment et il évoque aussi la coopération policière qui existe depuis bien longtemps entre la France et les pays d'Amérique latine.
Oui, sur la question du commerce et surtout des échanges internationaux, c'est important d'insister là-dessus. Il y a un double phénomène à la fois de militarisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire que les polices du monde entier s'imprègne de techniques militaires pour réprimer la population. Il y a un effacement entre les stratégies de maintien de l'ordre, entre guillemets, et les opérations militaires, les opérations dites de maintien de la paix. Alors l'incarnation en France, évidemment, c'est par exemple l'usage de blindés, l'usage de plus en plus régulier d'armes à feu, le fait que les forces de l'ordre françaises soient avec des fusils d'assaut, etc. Donc il y a vraiment ce phénomène de militarisation qui est observable partout, dans quasiment tous les pays du monde, et un phénomène de mondialisation, d'uniformisation, et on voit que les États s'inspirent les uns des autres. C'est ça qui est assez terrible. C'est qu'il y a ce que les militaires appellent des rétextes, des retours d'expérience, c'est-à-dire que, bah, en tout cas à l'échelle européenne, c'est bien documenté, hein, une opération comme Notre-Dame-des-Landes, après ça, il y a un rétexte qui est fait avec des services de répression de plusieurs pays pour analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de quoi il faut s'inspirer, etc. Il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes. Hein, sur des contre-sommets de type G8, il y a des polices de toute l'Europe qui collaborent. Il y a des arrestations, par exemple, de militants français à la demande d'autres pays, ou, à contrario, Darmanin a fait arrêter tout un tas de militants étrangers qui venaient manifester en France sur la base de des services de renseignement conjoints. Bon, ça, c'est la collaboration entre les différents services de police de différents pays. Mais sur le sujet qui nous intéresse, il y a la dimension vraiment sur la dimension française. Je voulais faire un petit clin d'œil historique d'abord sur la Colombie. C'est que la police colombienne a été fondée par un Français. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, donc vive la France, hein, cocorico, on est content. Et il n'y a pas que ça. La première force de police colombienne, donc, elle a été créée en 1891. Et donc à l'époque, c'est le président colombien qui s'appelle Carlos Holguín, qui lance un appel à concours international pour créer une force de police en Colombie. Et évidemment, c'est un Français qui remporte le concours. C'est Jean-Marie Marcelin Gilibert. Hein, son nom a été espagnolisé ensuite pendant sa carrière. Et donc, il part en Colombie, il a gagné le concours et il crée la première force de police colombienne. C'est un ancien militaire qui a travaillé sous Napoléon III. Et donc, il va être à la tête de la police colombienne pendant une vingtaine d'années. Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que quelque part, il y a un lien entre les deux pays, mais surtout, il y a un lien entre la France et l'Amérique latine en termes de partage de savoir répressif. C'est-à-dire que la France, si on, voilà, à plein de niveaux, il y a eu des échanges de savoir et de matériel, mais on peut regarder en particulier la période des années 60, 70, 80, avec des collaborations vraiment marquées entre les services français et les dictatures latino-américaines. Alors évidemment, on pense à l'Argentine, on pense au Chili, hein, le Chili de Pinochet. Il y a directement des agents français, militaires ou policiers, qui ont apporté des formations contre-insurrectionnelles pour apprendre à mater la population locale et les révolutionnaires en particulier. Alors la France donc a un rayonnement international sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a forgé ces connaissances-là dans une histoire coloniale. Cette histoire coloniale, c'est la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et donc toutes les doctrines dites anti-subversives, contre-insurrectionnelles, pour écraser préventivement le plus fort possible les contestations. Bon, ben ça, c'est, encore une fois, c'est la France. Et pour terminer sur la Colombie, et après je parlerai du commerce en particulier, j'avais retrouvé là, en faisant le livre, qu'il y avait un accord en 2017, un cadre de coopération bilatérale entre la France et la Colombie, sur la question du maintien de l'ordre. Vous voyez, c'était du maintien de l'ordre, de la répression. Voilà, donc ça c'est en 2007, donc c'est 4 ans avant le grand mouvement social qui a secoué la Colombie. Et donc cet accord bilatéral, il y a un document du Sénat, donc c'est une collaboration sur la formation, les ventes d'armes, et en retour, donc ça c'est côté français, et en retour, la France demandait une expertise opérationnelle des forces armées colombiennes. Voilà, on est content de savoir ça. Donc, je traduis rapidement. Ça veut dire que la France exporte du matériel, du savoir-faire en termes de maintien de l'ordre. Hein, très concrètement, ils envoient des gendarmes et des policiers former directement des policiers dans d'autres pays. Hein. C'est pas spécifique à la Colombie, mais là ça se passe en Colombie. Et en retour, quand même, que l'État français macroniste demande à un narco-État une expertise opérationnelle des forces armées, ça fait un petit peu réfléchir aussi, quoi. voilà, si la police française commence à s'inspirer des forces armées colombiennes, on peut aussi un petit peu s'inquiéter. Donc voilà, il y a cette dimension-là d'échange de savoir, et la France a un rayonnement, entre guillemets, international sur ces sujets-là. Sur la question du matériel, oui, la France, vous avez dû voir passer les articles, troisième plus gros vendeur d'armes au monde, on est content, on est passé devant les Russes, hein, donc voilà, je crois que c'est quasiment 10% de toutes les armes produites dans le monde, vendues dans le monde, c'est la France. Hein. Notamment là, ce qui sert à bombarder Gaza en ce moment, c'est Made in France. Mais il n'y a pas que la dimension des armes militaires, des armes de guerre, il y a aussi toutes les armes de maintien de l'ordre, et là aussi la France est leader dans ce commerce-là, notamment les grenades lacrymogènes, les balles en caoutchouc, etc. Il y a notamment en France un salon international du maintien de l'ordre tous les ans.
C'est le
mois prochain d'ailleurs. En automne, tous les ans, il y a un grand salon qui s'appelle Milipol, qui est une foire internationale des armes de torture, de répression. Voilà, on peut les appeler de différentes manières. Et donc, on peut croiser dans cet événement qui est parrainé par le ministre de l'Intérieur français des stands de tous les pays du monde qui viennent vendre leurs innovations en termes de répression. Ça peut être un drone qui tire des grenades. Ça peut être des fusils intelligents, enfin voilà, des policiers augmentés, que sais-je. Évidemment, les balles en caoutchouc, etc. Et donc, dans les allées de ce salon Milipol, il y a également des représentants, des dignitaires de différents pays du monde. Alors, évidemment, des pétromonarchies, tout un tas de dictatures, en passant par des démocraties formidables, comme celle des États-Unis, etc. Et donc voilà, le monde entier vient faire son marché du maintien de l'ordre à Paris, à côté de Paris, en France, tous les ans. Donc il y a cette dimension-là qui est importante. Donc il y a d'une part un lien entre la France et la Colombie sur historiquement, en quelque sorte, sur la question de la répression. Et il y a aussi toute cette dimension de commerce, de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros qui sont rapportés par des entreprises du maintien de l'ordre, qui exportent des grenades, des armes dans le monde entier, et notamment en Amérique latine. Alors Colombie, je ne pourrais pas dire précisément, mais il y a un marché notamment au Mexique sur la question de la répression. Et donc c'est un vrai sujet, mais ça peut être une piste pour réfléchir à des résistances en dehors de nos frontières.
Sí, agradecerle mucho tanta información. Es muy bueno para nosotros saberlo también. Es importante.
Tout d'abord, merci beaucoup de toutes ces informations qui sont fort, fort intéressantes. Et c'est très bon à savoir que la police colombienne fait des formations pour d'autres polices en Amérique latine, notamment.
En temas de salud, pues Colombia también.
En termes de santé, on peut dire que la Colombie a fait beaucoup de progrès grâce, entre guillemets, à des victimes des lésions oculaires. La plupart des victimes des lésions oculaires ont eu le globe oculaire qui a explosé, qui est sorti. Et dans nos cas également, on a été victime des moqueries et la société en général nous discrimine en fait. Et ceci est complètement ridicule parce que c'est vraiment pas notre faute si on se trouve dans ces situations-là. En effet, nous voyons par ailleurs également que les gouvernements en fait investissent énormément sur des matériels. Là, on parle d'une tanqueta.
Una tanqueta es un carro.
Oui, c'est un véhicule blindé, en fait. Oui.
Que tenía una nueva arma que lanza gases lacrimógenos.
En fait, ce véhicule blindé lance du gaz lacrymogène et il lance par paquet de 20 à 25, mais il n'y a pas de cible. Enfin, c'est comme ça, au tout venant. Et en fait, un garçon qui a été victime de ce lancement de gaz lacrymogène lui a cassé 72 os du crâne. Il a perdu donc un œil et il a dû subir des chirurgies de reconstruction faciale. Et ce même genre de véhicule blindé a mis fin à la vie de Santiago car ce véhicule lui a passé par-dessus. Et en fait, à la surprise de tout le monde, et à cette occasion-là, nous avons découvert que ces véhicules blindés avaient des espèces de pics, des clous en fait, qui lui ont déchiré complètement la peau. Et il y a toute une série de violences qui continuent. Il y a les cas d'une femme qui a été victime d'abus sexuels au commissariat.
Ella llega a su casa y postea en su cuenta de Facebook que ha sido violada.
Et lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a posté sur Facebook son viol. Elle a été violée par la police. Et elle dit, dans une phrase très émouvante, elle dit que même son âme a été touchée. Et elle a été tellement touchée qu'elle s'est suicide quelques heures plus tard. La couverture médiatique a été de sorte à relater ces faits comme de fake news. En réalité, ce qu'elle cherchait, c'était pas vrai, donc qu'elle avait été violée, seulement elle voulait attirer l'attention. Et tout ceci pour expliquer qu'en Colombie, il n'y a pas de justice d'aucune sorte.
Tampoco hay una ayuda de los medios de comunicación, son medios muy monopolizados.
Et nous n'avons non plus le soutien des médias, il s'agit des médias qui sont, disons, contrôlés. Et on parle de nous dans ces médias comme si nous étions des personnes financées par des guérillas ou des narcotrafiquants. Et en fait, il est vrai que les policiers se couvrent entre eux, donc il est impossible de dire tel ou tel policier a été le coupable.
En mi caso específico, Sebastián logró tomar el número de placa y hubo una individualización del policía que me disparó.
En revanche, heureusement dans mon cas, Sébastien a réussi à identifier le numéro de matricule du policier, donc on a réussi à l'identifier. Et il y a peut-être d'autres façons pour que les policiers s'en sortent finalement malgré tout. Par exemple, dans mon cas, ils m'ont changé 5 fois de procureur. Et mon affaire a été envoyée à l'unité des délits sexuels, alors que ça n'a rien à voir avec mon affaire, en fait.
También hubo una audiencia de imputación de cargos.
Il y a eu également une audience au cours de laquelle on a fait les charges, on a énuméré les chefs d'accusation. Mais nous n'avons pas été invités, ni moi, ni mon avocat, comme par hasard. Et lorsqu'on s'en est plaint auprès du procureur, pourquoi vous ne nous avez pas tenus au courant? Et en fait, le procureur a dit, en fait, on a oublié. Mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que l'audience s'est très, très bien déroulée, finalement, de façon normale.
Esto nos deja ver el panorama de la justicia colombiana y es la normalidad para ellos.
Donc voilà un peu comment la justice colombienne considère que lors d'une audience où on va énumérer les chefs d'accusation, très important pour la victime et l'avocat, ils considèrent que c'est normal que ni la victime ni l'avocat soient présents.
En Colombia somos más de 103 víctimas registradas como víctimas de trauma ocular.
En Colombie, nous sommes déjà 103 victimes enregistrées officiellement en tant que victimes de lésions oculaires. Dans une période de 3 mois maximum. Et il y a à peu près un peu moins d'une semaine et demie, nous avons eu connaissance d'un autre cas de lésion oculaire, une victime. Donc, la police continue de réaliser ses actions de mutilation malgré les changements de gouvernement. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'une véritable réforme structurelle en Colombie et non seulement des petites touches de maquillage comme des nouveaux uniformes ou des petites touches comme ça de maquillage, c'est pas possible.
Sobre todo pues el acceso a la justicia y las garantías de la no repetición. Lo más importante es que nadie más pierda los ojos. Ya fuimos suficientes.
Et surtout l'accès à la justice, c'est vraiment fondamental et le fait qu'il n'y en ait plus des affaires de ce genre pour que personne d'autre ne perde son œil.
Moi, je voudrais juste reposer quelques questions à Lévi, s'il vous plaît. D'une part, est-ce que vous pouvez décrire l'arme qui vous a blessé? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que c'est peut-être des balles plus petites, j'ai l'impression? Et deuxièmement, décrire un peu mieux le processus d'une plainte en justice contre la police en Colombie. Est-ce que c'est comme en France, où il y a une unité spéciale de policiers? Est-ce qu'il y a d'autres corps? Est-ce que l'armée est impliquée ou pas? En gros, comment ça se passe?
Alors, c'est une balle en caoutchouc hein, qui m'a touchée, mais en réalité, le caoutchouc est qu'à l'extérieur. À l'intérieur, il y a du métal. En réalité, il n'y a qu'un 3-4% de caoutchouc. Le reste, c'est du métal, tout ce qui est à l'intérieur. Alors, la personne qui a tiré sur moi était... Moi, j'étais là et elle, elle était là où il y a la porte.
20 mètres,
quoi. 20 mètres. 30, 22, 15, 22.
16.
Et comme elles sont tellement petites, ces balles, en fait, elles peuvent rentrer par l'œil et arriver au cerveau, au crâne, et on peut tomber dans le coma. Heureusement, on n'est pas arrivé là pour mon cas, mais mon œil a éclaté. Mais j'ai aussi eu un impact sur le nez. En fait, mon nez, il est tordu. Et moi, du côté juridique, moi, j'ai dû aller moi-même au commissariat poser la plainte.
Commissariat de police.
Pero de policía, a la policía, a la comisaría de la policía.
Es que hay un tema y es que el ESMAD.
En fait, les unités anti-émeute, ESMAD, ça s'appelle en colombien, et la police, c'est la même chose. C'est...
Non.
Tous des policiers, pas des unités indépendantes, c'est tout un seul corps. Et quand moi j'ai posé la plainte, c'est la police en fait qui a déterminé quel était mon cas. Et mon cas, moi, la catégorie c'était des lésions personnelles, pas des violences policières. Ce jour-là aussi, j'ai présenté ma plainte, j'en ai parlé dans les réseaux sociaux, le même jour de l'attaque. Et la justice pénale militaire a ouvert une affaire à mon encontre parce que je les avais dénoncés par les réseaux sociaux. J'avais dit que la police m'avait attaqué. Et en Colombie, deux juges ne peuvent pas s'occuper de la même affaire. Donc il y a un tribunal qui doit prendre la décision si cette affaire va être suivie par la justice militaire ou la justice ordinaire, disons.
Est-ce que les ESMAD dépendent de l'armée?
Et les ESMAD
dépendent de l'exército?
Non. Pero hace parte, la policía está dentro del Ministerio de Defensa.
La police, d'accord.
Et dans la police, les ESMAD est dans le ministère de Défense, fait partie du ministère de la Défense, ça oui.
Comment
dire? Je vois que l'heure tourne et comme on a beaucoup parlé des problèmes de ce qu'on dénonce en termes d'usage excessif de la force, d'usage de ses armes, du commerce irresponsable, etc. Je vous propose, est-ce qu'on pourrait, tu as commencé à l'évoquer, Lady, sur la question de la réforme de la police, qui est la nécessité de faire une réforme en profondeur structurelle de la police, mais est-ce qu'on peut peut-être aborder les pistes de solutions qui, selon vous, existent pour pallier ces problèmes sur les violences policières en manifestation? On peut commencer avec toi, Pierre, si tu veux.
Ouais, y aurait plein de choses sur lesquelles rebondir. Déjà, sur la question des tanketta, des blindés. Justement, l'État français a commandé 90 blindés flambant neufs, super, d'ailleurs, qui sont utilisés aussi sur des théâtres de guerre, qui ont à la fois une mitrailleuse sur le toit et un lanceur de grenades, qu'on n'a pas encore vu, alors on a hâte de le découvrir, hein, qui permet de tirer 30 grenades d'un seul coup. On l'a vu. Non, c'était pas ce blindé-là. Qui permet de tirer 30 grenades d'un seul coup. Voilà, donc vous voyez une grenade, ce que ça fait dans une rue, là, c'est 30. Voilà, d'un coup. On est pressé de voir ça. Donc voilà, 90 blindés, 70 millions d'euros, ils sont en train d'être distribués. Donc moi, je pense déjà, pour commencer, et c'est le début de la réponse, je pense qu'il n'y a malheureusement pas de différence de nature entre la France, la Colombie, les États-Unis, en fait. Et d'autres, et même, voilà, je vais peut-être choquer, ou même des pays qu'on qualifie de dictature. Il n'y a pas un jour une démocratie, le lendemain une dictature, ça ne marche pas comme ça. C'est une question de curseur. Là, l'État français, il est en train, la 5e République est en train de pousser le curseur très très loin. Là, on est au bout de quelque chose. C'est-à-dire que c'est les dissolutions au maximum, le 49-3 au maximum, les armes de la police au maximum de ce qu'ils peuvent utiliser. Enfin voilà, là... Ils ont sorti cet été, après la révolte de Naël, des beanbags. On en parlait juste avant là avec Lady. parce qu'ils utilisent ça, les flics colombiens, c'est des fusils à pompe qui tirent des sacs avec des billes en plomb. Voilà, ça, ça a été tiré sur la population française, noire et arabe, hein, dans les quartiers qui se révoltaient. Demain, c'est contre les manifs. Voilà. Et ça, il y a eu au moins un homme qui était au volant dans sa voiture dans l'est de la France, qui a fait 3 semaines de coma, qui a frôlé la mort. Et celui à Marseille, on n'est pas sûr. Il y a un homme à Marseille qui a été tué par un tir. Est-ce que c'est un LBD? Est-ce que c'est un beanbag? Il y a enquête. De toute façon, voilà. Et pour moi, je vais répondre là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas de différence de nature. Il y a une différence de gradation, de curseur. Et en fait, les États peuvent pousser des curseurs très, très vite, très, très haut. Alors, encore une fois, je ne connais pas hyper bien l'histoire de la Colombie, mais sur le Chili, c'était extrêmement clair. C'est passé d'un État dit démocratique, quand il y a eu le soulèvement au Chili en 2019, là. En 2 semaines, il y avait l'armée dans les rues avec des méthodes directement héritées de Pinochet, c'est-à-dire des enlèvements, des disparitions, mais d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que l'État a poussé un curseur tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que heureusement, au Chili, c'est pas la même gauche qu'en France, il y a eu tout de suite une grève générale, des millions de personnes dans la rue, des blocages gigantesques, ce qui a fait que le gouvernement chilien a dû baisser la pression. En France, on n'a pas ça, on a plus vraiment de contre-pouvoir. Voilà, et donc on voit que l'État français peut pousser le curseur très très loin. Pendant les Gilets jaunes, il a poussé très très loin. Contre les luttes écologiques, les écologistes, il va loin. Et là où il va le plus loin, c'est dans les quartiers et contre les enfants d'immigrés, de colonisés. Et donc ce qu'on a vu cet été, Naël, là, on a déjà oublié, mais c'est extrêmement grave. Là, ce qu'on a vu, c'est une nouvelle époque en France, ce qui s'est passé en juillet. C'est-à-dire à la fois une répression militarisée et les pleins pouvoirs à la police. Donc voilà, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Donc la question, c'est que nous, avec l'Assemblée des blessés, on a un slogan qui est « Désarmons la police ». Nous, on ne se positionne pas tellement sur la question de la réforme de la police. Je sais qu'il y a un parti... Alors voilà, c'est révolutionnaire maintenant. Il y a un parti qui dit qu'il faut réformer la police de la cave au grenier. Hein, ils se font traiter de tous les noms, hein, c'est un parti, je ne vais pas citer son nom, mais qui se fait traîner dans la boue matin, midi et soir ces derniers jours parce qu'il a une position vaguement pour la paix en Palestine. Vous voyez de qui je parle? Voilà, ça c'est interdit maintenant en France par exemple. Et donc ce parti avait dans son programme il faut réformer la police de la cave au grenier. Nous on n'est pas tellement là-dessus parce que je dis nous, vous m'interrompez les camarades, hein, mais on pense que la police n'est pas forcément réformable. Et on a vu ça tout à fait clairement cet été. Désolé, je reviens après la mort de Naël. On a des policiers, même quand il y a des éléments absolument accablants, des images prises sous tous les angles, d'exécution d'un jeune homme mineur, même là, les policiers se mobilisent pour soutenir leurs collègues et sont des factieux. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et quelques jours après, c'était suite à la mutilation d'un jeune homme par un tir de LBD à Marseille. Et là, c'est la plus grande fronde policière de la Ve République, avec des actes ouvertement illégaux, hein, de quitter le travail, menacer le gouvernement, etc. Donc, dans ce contexte-là, cette police-là, elle n'est absolument pas réformable. Enfin, si demain, le parti dont je parlais, Jean-Luc Mélenchon, arrive au pouvoir, ce qui n'arrivera pas, disait on réforme la police, il y aurait probablement un coup d'État. Je le dis clairement. Il y avait une citation là d'un mec de l'UNSA Police pendant la campagne, il disait, nous, si Mélenchon est élu, on sera contre lui. Enfin, il le disait ouvertement. Hein. C'est pas un secret, ça c'est l'UNSA, c'est même pas les syndicats d'extrême droite. Voilà, donc ça c'est une police qui n'est pas réformable, c'est une police qui est un État dans l'État et qui, de toute façon, veut les pleins pouvoirs. Et les a dans une certaine mesure. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il faut la désarmer. Et peut-être aller un petit peu plus loin, mais j'expliquerai pour conclure. La désarmer, qu'est-ce que ça veut dire? La désarmer, c'est pas seulement lui retirer les armes qu'elle a entre les mains, même si c'est essentiel, ce serait la première étape peut-être. Mais lui enlever les fusils d'assaut, les LBD, les beanbags et autres horreurs, ce serait déjà un début. Mais la désarmer, en fait, ça désigne tout un tas de niveaux. La désarmer médiatiquement. Ce qui permet une répression aussi violente en France, en Colombie et ailleurs, c'est le discours médiatique qui légitime par avance les crimes policiers. Si la police française a pu faire ce qu'elle a fait cet été, c'est parce que depuis 50 ans, il y a un discours raciste, colonial, anxiogène à propos des banlieues, et encore plus depuis quelques années. Si la police a pu plonger deux hommes dans le coma parce qu'ils manifestaient contre une méga bassine, c'est parce que depuis des mois, les médias disaient quasiment tous les jours que c'était des éco-terroristes. Voilà, donc la désarmée, c'est la désarmée médiatiquement. Alors en France, c'est peut-être pareil en Colombie, en France, on a des syndicalistes policiers tous les jours à la télé. Tous les jours, sur tous les plateaux, quels que soient les sujets. Tiens, d'ailleurs, un enseignant qui se fait tuer l'autre jour, c'est les syndicats policiers qui étaient invités en plateau. Enfin, désolé, là on est... voilà. Donc la désarmée, c'est l'empêcher de parler dans la mesure du possible, ou au moins réussir à avoir une contre-attaque médiatique audible. C'est ce qu'on a tenté de faire avec l'Assemblée des blessés. C'est ce que font des médias indépendants. C'est ce que fait Amnesty International quand il y a des rapports qui sortent. Donc avoir un discours efficace, audible, de contre-attaque systématique des mensonges et de la propagande policière. Ça, c'est désarmer la police. Parce que si on arrive à déconstruire suffisamment leur discours, ils ne pourront pas aller jusqu'où ils vont. La désarmer donc militairement, en termes d'armes, et la désarmer politiquement, hein, en l'empêcher de pouvoir faire pression sur le pouvoir politique comme elle le fait. Alors, il y a plein de niveaux, et on pourra aborder, et puis là, évidemment, résister à la police, la désarmer, c'est aussi résister à la police dans le cadre des mobilisations, en tout cas l'empêcher de nuire, c'est-à-dire l'empêcher de terroriser, l'empêcher de faire peur. Alors, en Colombie, il y a un phénomène magnifique qui était les primeras lineas, les premières lignes, qui protégeait un petit peu le cortège. En France, il y a ce qu'on appelle le cortège de tête depuis quelques années. À Hong Kong, ça s'appelait les frontliners. Voilà, développer peut-être des pratiques comme ça, parce qu'il n'est plus, il n'est pas possible que ces policiers terrorisent les luttes sociales. Ça, c'est plus possible. Et donc, être à même de protéger, de soigner les manifestants. Et donc, peut-être que aussi poser d'autres questions, au-delà évidemment des mots d'ordre sur les réformes, des armées, etc. Peut-être aussi commencer à se projeter dans un monde sans police. Voilà, peut-être se dire, est-ce que c'est pertinent de déléguer systématiquement tous les problèmes de la société à des gens armés, généralement d'extrême droite. Voilà, et je m'arrêterai là sur les descriptions, mais vous avez compris. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où toutes les problématiques sont gérées sous le prisme de la répression, hein, y compris une crise sanitaire. Une crise sanitaire, on la gère sous le prisme de la répression. Voilà, essayer de se projeter dans un monde peut-être sans police ou avec le moins de police possible, comment s'organiser à l'échelle des communautés. Il y a le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis qui a essayé d'imaginer des choses comme ça, qui a créé des zones autonomes, des expériences, par exemple à Seattle sans police, qui était un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est un travail qui va d'abord se faire dans les esprits, parce qu'on est dans des sociétés néolibérales tellement violentes que vivre sans police, c'est compliqué pour l'instant. Mais voilà, commencer à faire avancer ça. Et si on arrive à délégitimer suffisamment fort l'idée de police, déjà on commencera à la désarmer.
Yo también coincido con lo que estamos pues aquí hablando.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.
En Colombia hubo una resistencia de casi 3 meses.
En Colombie, nous avons fait une résistance de presque 3 mois. Alors, il y a eu beaucoup de choses négatives qui se sont passées, mais il y a des choses positives qui en sont ressorties, que, par exemple le changement de gouvernement. Il faut rappeler aussi que pendant ces manifs avec la résistance, ils ont réussi à laisser une ville entière sans internet pendant 3-4 jours. Et cela démontre qu'en Colombie, la police a trop de pouvoir, bien trop, beaucoup plus de ce qu'elle devrait avoir. Je suis d'accord pour dire que nous avons besoin d'une police démilitarisée, une police donc civile, et qui soit au courant des droits de l'homme, une police qui connaisse le sujet des droits de l'homme. Le policier qui a tiré sur moi, il avait plus ou moins le même âge que moi. Et je ne serai jamais sûre, mais je crois qu'il l'a fait parce qu'on lui a appris, on lui a enseigné à tuer et ne pas avoir de remords. Maintenant, avec ce changement de gouvernement, j'ai une vision plus positive. Mais je sais qu'en 4 ans, on ne peut pas tout changer. Mais je crois qu'avec de la résistance et de l'amour, je l'ai toujours dit, on va pouvoir faire changer la façon que la police nous voit. Parce que c'est ça qu'il faut, changer la vision que la police a des manifestants, puisque nous, on manifeste aussi pour leurs droits. C'est aussi une question de société, hein, parce qu'en Colombie, ça fait trop de temps qu'on pense que nous avons un ennemi à l'intérieur et qu'il faut qu'on s'entretue.
También un país demasiado polarizado.
Avec trop de polarisation dans notre pays aussi. Même en famille, on ne peut pas parler de politique parce que c'est souvent trop gênant, c'est douloureux même. Alors c'est un travail de société que nous devons faire en première lieu. Enlever à la police le pouvoir, les armes en effet. Pourquoi ils se comportent de la sorte? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à craindre. Et c'est aussi une question des moyens de communication, hein, comment on présente à la télé les news en Colombie, parce que ils nous présentent, nous qui manifestons pacifiquement, comme des terroristes, de la racaille, des narcos dangereux. Et c'est très important aussi qu'il y ait un suivi depuis l'extérieur, c'est-à-dire comment les affaires sont menées en Colombie, mais qu'il y ait cette vision, ce suivi, cette supervision extérieure. Parce qu'il y a beaucoup d'armes et d'argent qui est investi dans la paix, pour la paix en Colombie, mais qui en réalité n'est pas utilisé de façon adéquate, correcte. Par exemple, la Norvège, hein, qui donne beaucoup d'argent pour la paix en Colombie, mais en réalité, on voit que sur le terrain, la paix n'est pas arrivée en Colombie, dans les régions.
Entonces es importante también desde el exterior un poco monitorear lo que está pasando en Colombia porque
Parce que bon, c'est important que depuis l'extérieur, on voit un petit peu ce qui se fait avec l'argent que vous investissez, hein, parce qu'en réalité, il sert une fois sur place à être éborgné, à être violé, à disparaître, à faire des prisonniers politiques. Je sais que le processus pour faire une réforme structurelle de la police est très difficile, en effet. Mais on a déjà résisté, on a perdu beaucoup d'yeux déjà, donc je crois en effet qu'avec ce nouveau gouvernement, il y a une volonté politique.
El nuevo viceministro de Juventudes es Gareth Cela.
Le vice-ministre actuel pour la jeunesse en Colombie, c'est Gareth Cela, et lui, il faisait partie des escudos azules, des boucliers bleus. Donc c'est ses premières lignes, hein, c'est ce cortège de tête, les gens qui empêchent que nous, qui sommes derrière, recevons les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc, ils font un corps de protection. Alors on est très content que ce vice-ministre soit une victime de lésions oculaires, parce que lui peut faire le lien maintenant avec d'autres ministères, comme celui de l'éducation, de la santé, du travail.
Y bueno, yo no tengo mucho que agregar, pero pienso que sí, que lo más importante.
Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais oui, en effet, je trouve que le plus important en Colombie actuellement, c'est d'avoir une police civile. C'est assez drôle de voir là, comme ils se auto-jugent eux-mêmes. Peut-être il y a quelqu'un qui est licencié de temps en temps, mais il finit jamais en prison. Il n'y a jamais une indemnisation des victimes. Et dans les réunions qu'on a fait ces derniers jours, on a parlé des évaluations, des recommandations que les États se font entre eux-mêmes à l'ONU. Et celle de Colombie, la Colombie va présenter donc. Va être présenté le 6 novembre prochain. En fait, c'est drôle parce que la Colombie demande à la France qu'ils rendent compte et qu'ils reforment leur police, et la France demande à la Colombie exactement la même chose. Et de notre côté, on a cet accord bilatéral où la France exporte du matériel que la police utilise en Colombie après pour nous blesser. Et donc il faut vraiment suivre de très près tous ces accords bilatéraux qui se tiennent et où est-ce que les pays investissent leur argent.
Y yo creo que para un cambio en la policía también es importante algo que siempre me ha dicho Lady.
Alors, par rapport au changement qui est nécessaire dans la police, Lady me dit toujours qu'il faut qu'on commence à rentrer dans cette institution, nous, en tant que jeunes. Il faut qu'on prenne le pouvoir. Je sais que parmi mes amis, il n'y en a aucun qui veut être policier, mais il est quand même important qu'il y ait aussi des gens qui rentrent dans la police pour changer les choses de l'intérieur. Et je m'arrête là.
Voilà, les amis d'Orwell, c'est terminé pour cette fois. Je vous renvoie donc au site d'Amnesty pour suivre leur campagne. manifestez-vous comme leur démarche pour tenter de réglementer le commerce de ces engins de malheur. Amnesty.org, voilà, c'est sur leur site. Et puis, nous laisserons, comme d'habitude, d'autres ressources sur le sujet, sur notre podcast, que l'on archive régulièrement sur le site de Souriez, vous êtes filmé, souriez.info, souriez.ez.info. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30.
Radio Libertaire, salut, bonsoir. De nouveau en direct sur l'antenne de Radio Libertaire, votre radio préférée, est-ce que je peux dire ça comme ça? Puisque désormais avec le dernier rapport de ma diamétrie, la radio c'est plus ça. Libertaire, bonsoir à toutes et tous et tous et toutes. Bonsoir tout le monde, bonsoir Guy qui est avec moi et Yves qui est également avec moi.
Bonsoir. Bonsoir à tous, oui.
Bonsoir tous les deux. Oui. Donc bonsoir tout le monde, un énième numéro de cette émission de Post Non Radio Show sur les antennes, sur l'antenne ou les antennes de... Allez, ne soyons pas... modestes, les antennes de Radio Libertaire en direct comme tous les vendredis soirs. Et ce soir, nous sommes le vendredi 17
oui.
novembre 2023. Donc, ce soir, de nouveau ensemble pour encore... une émission de, j'allais dire un numéro, oui, un numéro de l'émission de Post Non Radio Show. Donc ce soir, je vais tenter d'être sobre et de ne pas me perdre en considération brumeuse et de laisser la parole à mes deux camarades. Mais avant, je vais peut-être faire les annonces de la librairie Publico. De temps en temps, je le fais. Les événements pour les jours à venir. Alors, je prends mon téléphone. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver? J'y arrive.
Oui, oui. Ce soir, c'était Marie-Claire Calmu. Voilà, à partir de 16h, hein, c'était, je crois, déjà.
Oui, non. Non,
19h.
C'était 19h.
Voilà, comme toujours, 19h, pardon.
Ouais. Nouvelle du cataclysme.
Du cataclysme, pardon. Voilà, oui, oui.
Présentation, lecture. Oui. Demain, 18 novembre, 14h30. 17h30, c'est une table de presse.
À la Bourse du Travail, hein, oui.
Oh, oui, ce n'est pas à Publico, c'était la Bourse du Travail.
Oui.
Salle Croisat, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e, non, au SNU.
Voilà, oui.
Ouais, c'est SNU.
Oui, oui.
Mercredi 22 novembre à 20h, il y aura un film dans le cadre de Ciné Commune. Seco, c'est Sola, une coopérative populaire. Puis le lendemain, le jeudi 23 novembre à 19h, les Lascars du LEP électronique, projection, débat à l'invitation du groupe libertaire d'Ivry. Puis vendredi 24 novembre. En fait, le lendemain encore. 20h à travers Brassens, tour de chant dans l'univers de Georges Brassens et autres auteurs. Et encore le lendemain, c'est très, 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 très dense, très riche. Samedi 25 novembre, 16h, toujours contre le SNU et l'embrigadement des jeunes. Une projection, débat, et enfin, le dimanche 26 à 16h, concert de soutien à l'Union pacifiste. Et j'ai un peu plus de détails organisés en soutien à l'UPF, pardon. Et dans le cadre de la campagne fédérale anti-militariste contre la guerre et la militarisation, les chansons engagées ont contribué à façonner l'histoire en prouvant que lorsque les gens se rassemblent pour faire entendre leur voix. Des choses extraordinaires peuvent se produire. Concert de soutien donc présenté par Bruno Daratti avec Pedro Fidalgo, Nathalie Solance, Philippe Alterac, Rémi Tarier, Fabienne Elkoubi et Fabienne Elkoubi en fait. Voilà, il y aura quatre chanteurs. C'est bien ça, je me trompe pas. Non, quatre chanteurs. Alors, Pedro Fidalgo, lui, il chante en portugais. Il est aussi compositeur et cinéaste. Et il a réalisé plusieurs films dédiés à la chanson engagée, notamment Changer de vie autour de l'œuvre du musicien portugais José Mario José Mario Branco. Et puis, plus récemment, le film N'effacez pas nos traces sur le parcours de la chanteuse Dominique Grange. Voilà, et puis, ben voilà, Nathalie Solance, Philippe Alterac, avec son cabaret tout seul. Un collage où la poésie voisine avec le burlesque et la satire. Rémi Tarier. Il est noté qu'il était un poil nonchalant et que c'est un garçon attachant qui a des choses, bien des choses à raconter. Et enfin, Fabienne Elkoubi, qui est engagée pour les femmes, la paix et contre la violence, d'où qu'elles viennent. Et on l'a entendu au Trocadéro et devant l'ambassade de Chine, devant des milliers de sympathisants pour le Tibet. Voilà pour les événements de la librairie pour ces prochains jours à venir. C'est plutôt pour la semaine qui vient, je pense.
Oui.
Voilà. On se passe un petit morceau avant que vous attaquiez.
Oui.
Allez, volontiers. Après David Bowie.
Ah, voilà.
David Lynch.
C'est ça qu'on a entendu. David Bowie.
David Lynch has a baby butterfly size.
Girl.
ending my phrases.
The Post Non-Radio Show, c'est sur Radio Libertaire. Et c'est là, ici et maintenant. Guys, c'est à vous.
Ici et maintenant.
Oui. Ici et maintenant.
Tout de suite?
Tout de suite.
Allez.
On peut commencer.
Ouais.
T'as un article court?
J'ai un article qui fait cette longueur-là.
Ça va aller, ouais.
Ça va?
Oui, oui.
Il s'agit des suites que notre président Emmanuel Macron, a données à la crise des gilets jaunes. Et j'ai un article daté du 17 novembre 2023, signé, alors je ne sais pas qui c'est CA.B. c'est les initiales. C'est les cahiers de doléances du grand débat, un trésor sous clé, c'est ça le titre. Et la députée écologiste Marie Pochon a réuni des élus, associations et chercheurs qui réclament un libre accès à ces documents. Ah bon, bizarre. Et donc, le sujet, c'est qu'il y a eu 19 899 cahiers de doléances et qu'il y a eu 464 748 pages. Que près de 2 millions de Françaises et Français se sont appliqués à noircir durant les 3 mois du grand débat national début 2019, alors qu'Emmanuel Macron cherchait une issue à la crise des gilets jaunes. Donc exercice démocratique inédit, après tout on peut voir, ça peut être intéressant. À l'époque, le chef de l'État avait insisté sur la nécessaire transparence du processus, excellente idée, s'engageant à ce que l'ensemble des contributions soient progressivement et régulièrement mises en ligne sous licence libre. On pouvait lire ça sur le site du Grand Débat. Surprise, 5 ans plus tard, la promesse présidentielle n'a pas été tenue, déplore Marie Pochon. Ou partiellement, c'est-à-dire que les cahiers ont bien été numérisés et se trouvent conservés aux archives nationales. Une dizaine de chercheurs y ont accès, mais la version manuscrite dort aux archives départementales. Et le maire sans étiquette d'Augère-Saint-Vincent, dans l'Oise, M. Fabrice Dallongeville, dit « ça ne suffit pas ». Et il regrette ça parce que, ce qu'il regrette, je veux dire, c'est qu'il y ait une colère républicaine. Comment il dit ça ? Il fait état d'une colère républicaine que ces cahiers ne soient pas rendus au public. Voilà, de la façon dont il s'exprime. Et l'association Rendez les doléances, représentée par Rémi Goubert, milite depuis des années pour que cette restitution ait lieu. Et donc Marie Pochon entend porter une résolution transpartisane sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Et elle est la coordinatrice d'un groupe de chercheurs qui travaille sur les cahiers. La sociologue Sabine Plou pense que le corpus est sous-exploité. Alors, en quoi ? Eh bien, certains thèmes sont davantage présents dans les cahiers manuscrits que dans les contributions en ligne et les problématiques des ruraux, par exemple. Monsieur Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, mentionne 2 sujets majeurs, l'accès aux soins et la mobilité. Et alors, les participants ont de nouveau plaidé pour une mise à disposition de ces documents en open data. En 2020, le cabinet de Sébastien Lecornu, qui était alors ministre des collectivités territoriales et avait coordonné le grand débat, avait opposé des facteurs techniques et financiers. Il disait que pour être accessible en open data, les contributions devraient être anonymisées, ce qui aurait nécessité un travail trop lourd, précisait alors son entourage au Monde. Alors, 2 data scientists ayant à l'époque contribué à l'analyse sémantique des cahiers et qui voient un déni de démocratie à réserver ce corpus à 0,1% de la population, disent que l'anonymisation des documents pour respecter la loi en retirant les éléments d'identification ainsi que leur mise en ligne avec les outils de navigation serait possible sans difficulté pour un coût qui ne dépasserait pas, bon, ça monte tout de suite à 150 000 euros. Les questions techniques répondent à un choix politique et doivent être tranchées à l'Assemblée. Certains ont peut-être peur, dit-il, de rouvrir la boîte de Pandore, mais c'est notre rôle de parlementaire que de réhabiliter ces voies. Bon, c'est Marie Pochon qui s'exprime en ces termes. Bon voilà, donc elle conclut, on s'était battu pour que tout soit numérisé dans l'idée que tout le monde y ait accès, se souvient le politologue Pascal Perrineau qui comptait parmi les 5 garants du grand débat, mais la suite ne dépendait pas de nous. Il s'étonne ensuite que ni ministère, ni région, ni parti, ni syndicat ne se soient emparés du dossier plus tôt. Les extraits des cahiers lus sur le maintien des écoles rurales, le financement de la transition écologique, riches et documentés, suffisent à prendre la mesure de leur portée. Donc si l'initiative parlementaire venait à échouer, M. Rémy Goubert invite à une quête citoyenne aux archives. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il y a un petit problème. Ça serait bien effectivement que ça soit en lecture libre sur Internet.
Sur Internet.
Voilà, c'est un article donc dans Le Monde du 17-11. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des carcassés pour ces qui ont joué le jeu proposé par Macron, quoi. Dire puisqu'il y avait ces gilets jaunes dans la rue, il s'agissait de sortir d'une crise par le haut. Ma foi, la méthode, pourquoi pas. Elle n'avait jamais été utilisée, sauf pendant la Révolution française, mais sous autre forme, disons. Mais si ensuite c'est pour mettre tout ça dans des placards et le ressurgir seulement dans un siècle ou deux pour dire « Ah, il s'est passé ça, tiens, c'est intéressant, il n'y a pas eu de suite, tiens, c'est pourquoi ?» Bon, voilà.
Oui, parce que c'est archivé, notre compte.
C'est archivé.
C'est fort. Hein,
c'est archivé, c'est même scanné. Le problème, c'est un problème d'identification, de façon à ce que les gens qui ont écrit leur proposition ne soient pas cités personnellement, quoi. Ils ont fait œuvre utile pour tous les Français. Bon, enfin voilà, c'est de la concentration, c'est de la contradiction et de la concertation que naissent quelquefois des idées. Donc c'est dommage de mettre ça dans le placard. Mais enfin, comme tout remonte aux chefs de l'État, après tout.
Ben maintenant il le sait.
Maintenant il le sait, oui. Oui. Ben oui.
Mais ça sert à rien.
Ça sert à rien, oui.
Oui, c'est passé.
C'est ce qu'on a souvent dit ici. Ça sert à rien.
Ça a permis de dégonfler le sujet. Oui. Sinon, j'ai encore des trucs. Si
c'est fort, hein. Oui, oui, oui. Mais ça, oui, c'est sur le... T'as beaucoup de choses. Je vois que t'as beaucoup de choses. Hein, oui.
Oh là là, c'est affreux. Parce que j'étais absent. Mais je vais trouver un moyen.
Oui, oui. Il n'y a pas des redondants ou des articles qui se collent à d'autres, si.
Je vais faire travailler les auditeurs.
Ah oui. Ben moi, c'est pareil. J'ai retrouvé un article. La semaine dernière, j'avais lu un article... Henry, qui s'en souvient, c'est « Tout le monde déteste la police ». Alors, oui. je l'ai vu, le livre. Je ne l'ai pas feuilleté, mais je n'ai pas eu le temps.
D'ailleurs, je ne dirai rien ce soir. Parce
non,
que...
non, non, on ne dira rien. Je l'ai vu en vente à Publico.
J'ai 1200 raisons de détester la police.
Oui, c'est ça, oui.
Moi, je ne dirai rien.
1312.
1312, pardon.
Mais tu peux en parler très librement, très tranquillement ce soir, puisque on m'a reproché de t'avoir coupé la parole et finalement d'avoir... fagocyter la chose et que tu n'as pas pu dire grand chose.
Ah bon, c'est. Oh, ouais, je sais pas. Si non, il me semblait que. Étant donné que je l'avais déjà lu, donc j'ai assimilé d'autres choses, quoi, personnellement. Donc,
alors
c'est
vas-y, il n'y a pas de souci.
Ben non, je passais à autre chose à côté. C'est juste à côté.
Tu peux toujours.
Oh non, parce que là, ouais, qu'est-ce que tu veux j'avais eu envie, j'ai pas eu le temps d'acheter le livre, voilà.
Parce que si elles avaient été résumées, c'est. Ça nous aurait fait une émission d'au moins 10 heures, là, 1300.
Et oui, voilà, donc c'était quand même... ouais.
C'est pas mal, 1300.
Non, puis il faut lire le bouquin, je pense qu'il est assez bien argumenté, charpenté, voilà. Alors là, l'autre à côté, c'est pareil, mais bon, il est intéressant. Enfin, je pense que... Je connais pas Yves là-dessus, mais Henrik, nous, on se connaît bien sur les idées que l'article va nous raviver. Bon, on les a toujours en tête, nous. Hein. C'est en pernitence, trois pater, deux AV et 2 milliards. Alors, trois pater, deux AV, je me suis dit, je suis un peu loin du truc. Mais non, et 2 milliards, hein, y a de l'argent derrière. Donc, on a toujours su, mais on n'imaginait pas à quel point les abus sexuels, principalement sur mineurs, étaient monnaie courante au sein de l'Église catholique.
Oh.
Ah oui. Alors, les langues, entre parenthèses, et les plaintes commençant par trop à se délier, donc effectivement, c'était en novembre 2018, la conférence des évêques de France, croyant que l'incendie pouvait être circonscrit, tentant un coup de poker en chargeant une commission indépendante d'enquêter à ce propos. Alors, peine perdue, puisque le 5 octobre 2021, exactement trois ans après, 5 octobre 2021, cette commission présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien président du Conseil d'État, rendit son rapport. Diabolique, en une demi-douzaine de décennies, plusieurs centaines de milliers d'enfants auraient été victimes de la grande armée des pères touche-touche. Ça, c'est triste, hein, non, comme ça, mais oui, mais ça fait rire quand même, ça m'a fait sourire un peu. Alors, sur le reculoir, hein, l'Église a tenté de contester la méthodologie, mais elle a été obligée de plaider coupable. D'où obligation d'indemniser les victimes. Of course, en chipotant sur le montant en disant qu'elle était pauvre. L'Église est pauvre. Alors, la Libre Pensée vient de publier une enquête chirurgicale sur cette pauvreté. Via ses fédérations départementales, elle a fait une autopsie de la plupart des biens de l'Église en France. Photographies, descriptifs à la clé, estimation charitable du Trésor, 8 milliards d'euros, soit au moins le double. Donc, largement de quoi indemniser ses victimes. Le coût de l'indemnisation étant estimé à 2 milliards. Alors oui, non seulement l'Église doit payer, mais elle peut payer. Vous ignorez que l'Église, soi-disant des pauvres, était si riche. Ce livre va vous ouvrir les yeux, carrément. Ce n'est pas un polar, c'est juste la Bible des croyants, ni Dieu, ni maître. C'est Jean-Marc Perrault. Alors pour vous dire, le livre, il est, bon, en vente à Publico, bien sûr, dans le 11e, mais il est à la librairie de la Libre Pensée. Ben oui, c'est du rue des Fossés-Saint-Jacques, hein, 10-12 rue des Fossés-Saint-Jacques, dans le 5e, toujours à Paris. Voilà.
Ah.
Down inside the groove, and for the
The Pulse Non-Radio Show. Avec vous ce soir, chers auditeurs et auditrices.
Oui, bah, moi j'avais un truc sur... Oui. C'est sur Le Monde du 17 novembre, c'est assez récent, qui concerne la définition du viol. Parce qu'en fait, le titre c'est « La France refuse que l'Union européenne intervienne dans la définition du viol ». La France considère que ça relève du droit pénal et donc de la compétence des États, tandis que seuls les eurocrimes